du Nietzsche triomphaliste pour plutôt revenir à ce qu'il affirmait peut-être de lui-même. Je vous cite ce qu'il dit dans Ecce Homo, « Malheur à moi, je suis nuance ». Donc, Nietzsche qui, finalement, nous pousse à des prises de position parfois très, très tranchées, se présente comme quelqu'un qui est nuancé. Donc, il y a les couleurs, si vous voulez, de l'aurore ou qui est capable de distinguer les choses aussi. Mmh.
Bon, on aura l'occasion de reparler de toute la complexité de sa pensée, justement, qui est loin d'être manichéenne. Mais bon, avant de parler de sa production intellectuelle, il faut comprendre qui il est, Nietzsche. De quel milieu il vient? Est-ce qu'il était prédestiné là, à devenir un intellectuel?
Certainement un intellectuel. Il aurait pu être un artiste aussi parce que c'était un enfant doué, surdoué pour les langues, entre autres. Mais il vient d'un milieu qui est essentiellement religieux. Donc, du côté de son père et du côté de sa mère, il y avait des pasteurs depuis 7 ou 6 générations, je pense. Mmh. Son père lui-même était pasteur, donc sa mère, fille de pasteur. Il est l'aîné de cette famille qui comptera 3 enfants. Son jeune frère va mourir, donc il avait un jeune frère peu de temps après son père. Donc ça, c'est un événement très important de sa biographie. Si vous voulez, à l'âge de 5 ans, il a perdu son père, dont il parle parfois en disant qu'il est vraiment le fils de son père. Encore une fois, ça indique une complexité de Nietzsche. Ce père, il le présente comme quelqu'un qui était d'une émotivité, d'une sensibilité morbide. Donc, on sait de lui qu'il était pasteur, bien sûr, mais qu'il était aussi musicien. On ne sait pas exactement de quoi il est mort. Hein. À l'époque, il parlait d'amollissement du cerveau. Donc, j'imagine que c'était un cancer du cerveau. Mais aussi, il avait de fréquents maux de tête, donc comme Nietzsche. Et on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Mais Nietzsche dit qu'il retient un peu de son père. Hein. Il est un décadent comme son père, quelqu'un d'un peu malade. Donc... Mais cet événement-là a été très, très marquant dans sa vie. C'est la première fois qu'il rencontrait la mort. Ça va lui laisser une impression durable liée à la musique aussi, parce que les cloches lors des funérailles l'ont profondément marqué. Il revient souvent sur ce symbole-là, la cloche, le temps qui passe. Et c'est ça, il va après ça vivre, on dit choyé, même chouchouté par les femmes qui étaient autour de lui, donc sa mère. Qui a toujours veillé à ses besoins même matériels les plus élémentaires, sa sœur Élisabeth, qui était une malédiction pour lui. Comme vous le savez sans doute, elle a falsifié ses écrits. C'était une nazie consommée, arienne. Bon, sa grand-mère et sa tante. Donc, il vivait dans un univers féminin, privé d'hommes. Donc, voici en gros son milieu familial. Donc, la musique joue un rôle, certainement la pensée, parce que dans l'univers protestant, il y a une interprétation de la Bible qui est très importante. Un amour peut-être de la langue aussi à travers... la Bible qui avait été traduite par Luther. Voilà, en gros, ce que j'aurais à dire.
On parlait de musique. On va justement entendre un premier extrait musical. Je ne vous dis pas qui est l'auteur. Je vous invite seulement à l'écouter attentivement et on vous revient après. oui, de retour à 3600 secondes d'histoire. Alors bon, vous venez d'entendre une pièce qui s'appelle Album Blatt, donc feuille d'album, si on veut, jouée par Loretta Altman. Bon, faut oublier la voix, là, on a eu une petite incursion d'une pièce subséquente, mais si on se concentre sur cette pièce de piano, ben en fait... Elle a été composée par nul autre que Nietzsche. Alors, ce que peu de gens savent quand même, il a été compositeur, un compositeur peut-être pas, évidemment, qui n'a pas une importance majeure dans l'histoire de la musique, mais est-ce que vous pourriez nous parler de cet intérêt pour les arts qu'avait Nietzsche dès son jeune âge, là?
Oui, bien, on dit que dès l'âge de 9 ans, il jouait... Ben, premièrement, il improvisait au piano. Il paraît que c'était fabuleux de l'entendre. Donc, il était peut-être pas un très bon compositeur, mais certainement un très, très grand pianiste. Il a envisagé de faire une carrière musicale. Je pense que ses premières compositions remontent à l'âge de 9 ans. Je suis pas certaine, mais bon. Donc, ça, c'est... cet intérêt pour la musique traversera toute sa vie. Je pense qu'il jouera toujours aussi du piano. Il a composé quand même certaines pièces qui sont intéressantes, assez en tout cas pour qu'on puisse faire un disque. Il y a aussi naturellement, on en reparlera plus tard, son amitié pour Wagner qui aurait été très importante, Richard Wagner qui est le grand compositeur de l'or du Rhin, etc. Donc il avait un intérêt marqué pour la musique qui lui vient sans doute de sa famille et puis du milieu protestant aussi.
On
la liturgie
beaucoup,
allemande
ben oui.
est magnifique si je peux dire. Et il s'intéressait très très tôt à la poésie aussi, lui-même il écrivait son autobiographie. Il la recommençait assez régulièrement. Donc, il avait un intérêt très, très marqué pour la poésie, les langues. Et voilà, je pense que c'est pas mal ce qu'il caractérise sur le plan des arts. Mmh. Un intérêt très, très précoce, en tout cas, pour la musique puis la poésie.
Mmh. Et là, ben, ensuite, il va effectuer des études en philologie, je me rappelle bien, c'est bien ça,
oui.
Mais il va toucher un peu à beaucoup de choses.
Oui, vous aviez mentionné peut-être qu'à Bonn, dans une des questions, il a fait beaucoup de choses. Ça lui a pris du temps à trouver sa voie. Peut-être qu'il y a eu aussi une influence de sa mère qui a été déterminante de ce point de vue, ou en tout cas une influence qui était exercée sur lui, dont il avait à se départir. Elle voulait naturellement qu'il soit théologien. Donc, il aurait continué la lignée familiale, alors qu'il a perdu la foi, semble-t-il, très tôt, ou en tout cas a commencé à questionner le christianisme très tôt, autour du problème du mal. Donc, il s'est essayé quand même à beaucoup de choses. Il le dit dans certaines lettres, il ne trouvait pas sa voie jusqu'à... Mais il avait toujours eu excellé, si on peut dire, en philologie, donc dans l'étude des textes grecs et latins, puis surtout en latin, quand il rencontrait un texte qu'il aimait, il traduisait en latin. Donc, il dit que c'est comme ça qu'il a appris le style. Donc, ce qui fait que, bon, il y a un des philologues très renommé de l'époque, qui était une sommité, qui l'a comme repêché, si je peux dire, et qui lui a donné l'impulsion de faire vraiment des études en philologie. C'est d'ailleurs lui, il s'appelle Ritschel, qu'il faut le recommander pour un poste à Bâle, alors qu'il n'a que 24 ans et qu'il n'a pas fini son doctorat.
Mais juste avant, dans ses études à Leipzig, bon, là, on a mentionné qu'il lisait beaucoup les auteurs anciens, mais il lit un de ses contemporains, si on veut, Schopenhauer, et c'est un auteur qui va avoir une grande influence sur lui.
Oui, vous faites bien de le mentionner. Donc, semble-t-il que rien ne le préparait à la rencontre de Schopenhauer. Il s'est intéressé à la philosophie quand même, donc c'était des disciplines assez connexes à cette époque. Même que quand il sera professeur à Bâle, il voudra de plus en plus faire de la philosophie. Il voulait laisser tomber la philologie pour la philosophie. Schopenhauer est une rencontre déterminante pour lui. Je peux dire, en fait, ce qui l'a complètement marqué, c'est que Schopenhauer était proche de l'art quand même. Hein? Lui-même jouait de la flûte, Schopenhauer, et disant que le fond du monde... si vous voulez, l'essence de la réalité, c'était la volonté. La volonté, qu'est-ce que c'est? C'est comme une espèce de pulsion pour lui, aveugle, qui se manifeste en tout. Alors, ça a beaucoup intéressé Nietzsche, hein, parce que ça sent probablement qu'il reconnaissait quelque chose de sa propre sensibilité là-dedans. Aussi, l'opposition de Schopenhauer à tout l'idéalisme, à tous les systèmes qui sont fondés uniquement sur la raison, ça lui a plu aussi. Et surtout, si vous voulez, l'espèce de sentiment du tragique qui se dégage de la philosophie de Schopenhauer, c'est-à-dire que si tout est volonté, donc une volonté absurde, hein, qui n'a pas vraiment de sens, donc qui ne poursuit pas un but ou une direction, alors quel est le sens de la vie, notamment de la vie humaine, qui est transie par la souffrance. Hein, cette volonté-là, c'est du manque, donc ça nous pousse à désirer tout le temps, à essayer d'assouvir notre désir. Donc cet aspect du tragique, de la souffrance qui est inhérente à la vie humaine, ça c'est quelque chose qui va marquer aussi Nietzsche, hein, qui va traverser toute sa vie, parce qu'un des problèmes fondamentaux de sa pensée aussi, de la morale pour lui, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance. Donc, je pense que c'est une des questions principales de sa pensée. C'est le fil conducteur qui nous permet, si vous voulez, d'appréhender plusieurs phénomènes comme la religion chrétienne, par exemple, ou d'autres. Donc, Schopenhauer est très important. Il va le devenir de plus en plus. Nietzsche était un espèce de prosélyte. Quand il tombait en amour avec un philosophe, il le faisait vraiment sien. Et la rencontre de Wagner va peut-être encore solidifier ça, parce que Wagner, si vous voulez, était schopenhauerien. Il disait que le fond des choses est proche de la musique. Autrement dit, l'idée de Wagner, que Nietzsche va reprendre en partie pendant un certain temps, il va l'abandonner par la suite, c'est que la musique est une espèce d'expression directe de ce fond du monde, de cette pulsion de la volonté. Donc, il y a là toute une constellation, si vous voulez, entre, encore une fois, la musique, quelque chose qui touche aussi le tragique, puis quelque chose que les Grecs, entre autres, ont mis en lumière, donc les anciens, puis la philosophie. Alors, c'est des trois pôles qui vont être importants dans toute sa propre vie, sa carrière intellectuelle.
Et pourriez-vous nous parler de cette relation de Wagner et Nietzsche? Comment ils font connaissance?
Je pense qu'ils font connaissance en 1868. Nietzsche est invité, ma mémoire est peut-être pas bonne, mais chez la sœur de Ritschl, je pense, qui était son directeur, donc la sommité en philologie dont je parlais. Wagner était présent, puis ils se sont parlé. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de points communs, malgré la différence
d'âge. Ça a cliqué, comme on dit.
Ça a cliqué, donc ils sont devenus de grands amis. On peut être critique par rapport à la manière dont Wagner traitait Nietzsche, mais je pense qu'ils se sont vraiment identifiés l'un à l'autre. Nietzsche est devenu un wagnerien, il était schopenhauerien, il va devenir schopenhauerien, wagnerien, donc il va faire la promotion de Wagner, de sa conception de l'art, sa conception de l'Allemagne aussi pendant un temps, jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il avait fait fausse route. Mais leur amitié va être très, très, très forte, durant 3 ans à peu près. C'est l'époque où Wagner fait jouer pour la première fois Tristan. Donc, pour Nietzsche, c'est un des sommets musicaux, bien qu'il va s'éloigner aussi de la musique de Wagner par la suite. Il va préférer les Français, entre autres. Mais voici donc cette constellation-là entre le tragique, la musique, la philosophie, tout ça se retrouve aussi chez Wagner, mais appliqué, si je peux dire, dans l'opéra, dans la musique. Donc là, c'est encore plus proche, peut-on dire, de la vie que peut l'être la philosophie.
Et là, ils vont rompre aussi quelque part dans les années 1870. Est-ce qu'on sait la raison exactement ou...
Oui, je pense que... Nietzsche va s'éloigner de Schopenhauer, tout simplement. Il va se rendre compte que Schopenhauer est un pessimiste, donc quelqu'un qui veut quitter, on peut dire, qui veut nier la vie, nier la volonté. Il utilise l'art comme un moyen pour échapper à la volonté. Nietzsche va préconiser le contraire. Donc, il va s'opposer à Wagner à travers Schopenhauer, mais à la fin, qu'il va dire aussi, la musique, rien de métaphysique, c'est pas un double du monde, hein, c'est quelque chose qui est simplement humain. Et il va se rendre compte aussi que Wagner évolue vers l'antisémitisme puis le christianisme. Mmh. Donc, tout ça, ça va faire en sorte qu'il se sépare. Mais Nietzsche lui-même se repliait plutôt sur l'esprit critique des Français, entre autres. Donc, mm-hmm. il abandonnait tout le mythe germanique qui était cher aussi à Wagner, hein, qu'on retrouve dans ses opéras. C'est le mm-hmm. fond de ses opéras. Oui, oui,
toutes les sagas nordiques. Ouais,
ouais. L'ordre du Nibelungen, ben ouais. même Parsifal, etc. Mm-hmm.
C'est quand même intéressant de voir que, bon, Wagner a appelé un de ses opéras une partie du Ring, Le Crépuscule des Dieux, alors que Nietzsche a un ouvrage qui s'appelle Le Crépuscule des Idoles. Lequel a influencé qui? Je ne sais pas lequel vient en premier.
Ah, c'est Wagner, je pense.
C'est Wagner en premier.
Je ne suis pas certaine. Il faudrait
vérifier.
Je pense que oui, c'est Wagner mm-hmm. en premier.
Mm. Et puis, bon, Nietzsche avait toute sa vie a une santé assez précaire. Là. Comment ça va influer peut-être sur sa manière de penser, puis aussi...
Ça, c'est une question qui...
Parce qu'on on parlait de la souffrance, qui est un thème important.
Mais peut-être que... ce qu'on peut dire, il y a deux volets, si vous voulez, pour deux façons d'aborder cette question-là. On ne sait pas exactement ce que Nietzsche avait. Hein, y en a qui vont plutôt aller vers des causes...
La syphilis.
Il souffrait énormément. Une chose est sûre, il a commencé à avoir des migraines très jeunes, un peu peut-être comme son père. Ça s'est doublé de problèmes d'estomac, etc. Donc, il y a eu l'hypothèse de la syphilis. Il l'avait certainement, mais il y en a qui disent que les symptômes correspondent pas à ce que ça devrait être. Donc, il a été extrêmement malade au point d'être obligé d'abandonner son professorat à Bâle.
Et d'ailleurs, il y a un événement majeur qui se passe dans sa vie le 3 janvier 1889. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, est-ce que...
Oui, on a le temps.
Oui, mais en fait, on pense que c'est peut-être un mythe. On ne le sait pas exactement. Donc, si c'est un mythe, en tout cas, c'est un mythe qui est révélateur de la manière dont on voyait Nietzsche à cette époque. Nietzsche habitait à Turin à cette époque. Il a passé Noël dans une solitude très grande, dit-il. Puis, un matin, il sort de chez lui, il voit un cheval qui est une jument, semble-t-il, qui est battu par le cocher. Nietzsche serait effondré au cou de l'animal, donc aurait pris l'animal dans ses bras, si je peux dire, ou à bras le corps pour le protéger. Donc, selon qu'on est très, très critique de Nietzsche, mais on va dire lui qui est en... critiquer la compassion et mort de compassion pour la souffrance d'une bête, ça le fait. Mmh. Ou simplement, voyez la grande bonté de Nietzsche. Donc, mais son rapport à la souffrance est certainement en jeu. Mais son effondrement date de là, ce qu'on appelle son effondrement, donc la folie finalement qui l'a pris.
Et après ça, jusqu'à la fin de sa vie en 1900, c'est son décès,
exactement,
c'est ça? Là,
ouais.
Il a été... dans un état...
Alité.
Ouais, c'est ça.
Ah, okay. On le voit sur certaines images, oui.
Mm-hmm. Bon, on va passer en pause publicitaire et puis on va vous faire entendre un très beau lead de Wagner, justement, tiré des Wesendonck Lieder, Der Engel, chanté par la soprano Jessie Norman, qui nous a justement quittés la semaine passée. Alors, bonne écoute.
Yeah. Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à CHIZ pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de CHIZ 94.3.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuites! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute CHIZ 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de CHIZ 94.3.
Et non, ceci n'est pas un Rickroll, c'est une nouvelle édition du Super Quiz CHIZ! Sors tes leg warmers et ton coat de jeans, on s'en va dans un voyage musical au pays du glam metal, du rap East Coast, West Coast et de la pop de Madonna et de Wham! Dans ce questionnaire fait sur mesure pour toi, le dimanche 20 octobre au Griendel dès 19h30. On se voit!
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Que ça peut attendre, c'est 3600 secondes d'histoire.
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
De retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission sur Nietzsche avec la philosophe Marie-André Ricard. Alors, avant la pause, on a un peu dressé un portrait de la vie de Nietzsche pour un, avant de parler de sa pensée. Bon, on a mentionné justement que Nietzsche a passé à peu près quoi, les 10 dernières années de sa vie, disons, dans un état de...
Les 20 dernières années.
Dans un état de on disait de folie, là, mais disons, avec des problèmes de santé mentale.
Léthargique.
C'est ça, exactement. Mais bon, ça faisait quand même un certain temps là, qu'il était... Bon, qu'il vivait des tourments, etc., etc. Quel est l'impact sur sa pensée de ces différents... Disons, cette maladie mentale?
Mais il y a des impacts qui sont directs, si je peux dire. On ne sait pas si c'est une maladie mentale. On ne sait pas si c'est une maladie simplement physique ou mentale, parce que Nietzsche paraît parfois en très bonne santé mentale. Je prends, pour preuve, les deux derniers écrits qu'on connaît de lui. Ils ont été écrits à Noël, justement, 1888, donc peu de temps avant son effondrement. Puis c'est des écrits qui sont limpides. Justement sur Wagner, puis aussi les dithyrambes à Dionysos. Ça me démontre une grande clarté d'esprit, pas de hargne, mais pendant cette période-là, il écrivait des mots à tout le monde. Il se présentait lui-même comme le crucifié, parfois Dionysos. Donc, on voit que la folie le gagnait. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il avait, même encore aujourd'hui, malgré tout. Mais la maladie a été une expérience, on pourrait dire, structurante pour lui, curieusement. Donc, il a fait de sa maladie quelque chose. Vous savez que Freud craignait de lire des textes de Nietzsche parce qu'il avait peur de trouver ses idées déjà chez Nietzsche. Mais il avait raison parce que Nietzsche a fait des choses importantes. Premièrement, je pense qu'il a innocenté la maladie. Dans une certaine optique, même aujourd'hui, je pense que c'est une représentation populaire qui veut que la maladie soit une punition ou quelque chose comme ça, qu'on soit responsable de sa maladie, peu importe. Donc, Nietzsche a fait la maladie plutôt une puissance qui délivre. Autrement dit, il a vu que la maladie pouvait intervenir pour nous sauver, pour sauver un individu. On tombe malade parce qu'on n'est pas capable de faire face à une réalité ou parce qu'il faut justement s'en distancer. Donc, la maladie, pour lui, la façon dont il l'interprète toujours, lui a fourni des conditions de sa pensée. Par exemple, le libérer d'attache qui le contraignait ou qui le faisait souffrir. Hein, quand tu es malade, c'est comme si tu étais de côté, hein, sur la voie de service. Donc, ça l'a libéré. Ça lui a permis de faire un retour en soi, sa propre vie, etc. Et ça, c'est important. Donc, puisqu'il va fonder toute sa pensée ultérieure sur son expérience vécue, à la proximité, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, à tout ça, si bien qu'il va plutôt... Il en arrive à dire qu'il est un psychologue. Donc, la philosophie doit être maintenant psychologie. Il le fait avant le déploiement de la phénoménologie. On peut dire qu'il est très proche de ces courants-là déjà, puisque justement, la pensée doit être fondée sur l'expérience de soi.
Il est un peu comme Montaigne, dans le fond.
Mais Montaigne est un de ses écrivains préférés, mais avant la lettre, hein, il dit que Montaigne écrit bien, etc. Donc, oui. Donc, la maladie peut être porteuse d'une grande santé, d'une libération qui lui permet finalement d'être lui-même et de poursuivre ses propres, si je peux dire, ses propres buts. Ce qui va aussi l'amener à critiquer énormément l'idéalisme en philosophie. Donc, idéalisme, ça veut dire beaucoup de choses, mais disons, l'idée fondamentale de l'idéalisme, si on suit Hegel, c'est que la réalité, c'est quelque chose de rationnel, c'est quelque chose d'idéal. On voit que Schopenhauer s'était opposé diamétralement à cette idée avec la volonté. Au lieu de l'idéalisme, Nietzsche va revenir vers le corps, vers l'expérience immédiate des choses, vers l'importance des petites choses de la vie, dont il dit, il va dire qu'il faut les embellir. Il faut faire de notre vie, c'est une phrase qui est très connue, et lui apporter le même soin que si on faisait une œuvre d'art, pour arriver à être content de soi. À faire quelque chose de sa vie, quoi.
Une esthétique de la vie, finalement.
Oui, bien, là, c'est ça. Il faut faire attention, certainement, au mot esthétique, parce qu'il ne s'agit pas d'une fuite dans un autre monde qui serait le monde de l'art. C'est ce qu'il va reprocher aux Wagneriens, entre autres, hein, de faire de la musique, justement, pour pouvoir oublier la réalité, jouir, si vous voulez, comme si on prenait un narcotique, etc. Non, c'est pas un oubli de soi, c'est même une façon de vivre sa vie, qui puisse être positive, qui puisse être constructive et éviter de s'égarer dans ce qu'il appelle des arrière-mondes.
Et on va souvent utiliser un mot pour qualifier la philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie qui est critique. On parlait justement, son positionnement par rapport à l'idéalisme, par rapport à la religion catholique aussi, c'est-à-dire le christianisme. Il a toujours été, donc il disait lui-même vouloir faire un renversement des valeurs. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler de ce côté très critique?
Mais Nietzsche, on dit de lui qu'il était un individu très affable, bienveillant, tout ça, mais dans la pensée, il est critique dès le départ. Jeune professeur à Bâle, il fait des conférences où il critique le système d'éducation de son temps. Il critique la culture de son temps parce que, naturellement, lui, il veut justement améliorer les choses. Donc, il est casse-cou. Son premier livre sur la naissance de la tragédie, c'est un livre qui est extrêmement critique aussi de la modernité en sous-main. Donc, là, il participe d'un mouvement, si vous voulez, qui part donc très allemand au 19e siècle, qui est la redécouverte des Grecs. Pour l'Allemagne en général, les Grecs étaient un sommet de l'humanité. C'était l'homme, on pourrait dire, supérieur, entre guillemets. Donc, les Grecs servent de contre-modèle à l'homme moderne qui ploie sous l'utilité, le banal, le temps, donc l'absence de grandeur. Mais il est très, très, très critique de la modernité dès ce texte. Donc, il y a une part de critique qui est inhérente à sa pensée. Nietzsche veut donner du sens à la vie, autrement dit. Mais le gros coup d'envoi, si vous voulez, c'est sans postuler que la vie a un sens prédéterminé, puis sans postuler non plus qu'il y a Dieu, hein, qui garantisse tout. Donc, un des monuments, si je peux dire, de la critique nietzschéenne, c'est son annonce de la mort de Dieu qui survient dans Le Gai Savoir, qui est un texte qui, quand même, qui est assez... frappant, mais qui dérange dans une certaine mesure. Nietzsche n'est pas le premier à avoir annoncé la mort de Dieu. Hegel le fait. Jésus est mort sur la croix. Mais disons, la façon dont il va le faire, ça va déranger énormément, puisqu'il va dire deux choses essentiellement. C'est que nous sommes les meurtriers de Dieu, donc Dieu n'est pas mort de sa belle mort, si vous voulez. Il y a eu d'autres morts de Dieu ou d'autres crépuscules auparavant. Les dieux grecs sont disparus, les dieux romains aussi. Donc. Mais non, ça, c'est pas... Ils ne sont pas morts de sa belle mort. Nous avons tué Dieu. Et deuxièmement, nous ne le savons pas ou nous ne voulons pas le voir parce que toutes nos valeurs sont encore fondées sur l'idée de Dieu ou la morale qui en découle, le christianisme. Donc, c'est encore extrêmement critique parce que Nietzsche dit, mais vos institutions sont vétustes, vous n'y croyez plus. Donc, à partir de ça, il va postuler ou il va même prophétiser une suite de catastrophes, si vous voulez, mais la décadence, hein, ce qu'il appelle le nihilisme, le déclin des valeurs. Et de la vie, entre autres, aussi.
Et il y a un concept qui était très cher à Nietzsche, c'est celui de volonté de puissance, hein, qui peut être positive ou négative. Là. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Mais c'est un des concepts, qui a eu une destinée quasiment fatale, si je peux dire.
Qui a été déformée, peut-être.
Il était repris par notamment le nazisme. Donc, le héros nazi, comme le représentant par excellence de la volonté de puissance. Volonté de puissance, une conception qui était promulguée ou en tout cas... par la sœur de Nietzsche, entre autres, qui a falsifié un texte qui aurait dû s'appeler « La volonté de puissance ». La sœur de Nietzsche, qui était très amie avec Hitler, entre autres. Donc, le nazisme va se faire l'écho de cette volonté de puissance qui voudrait dire, dans le fond, une volonté de domination du faible aussi. Et il y a des articles, il y a des textes de Nietzsche qui donnent cette impression. Aujourd'hui, on les lit de façon un peu plus exacte. On voit que c'est pas si simple que ça. Mais si vous voulez, le concept de volonté de puissance, il y a trait à la puissance, bien sûr, mais la puissance ne veut pas nécessairement dire domination asservissement du plus faible.
Pas nécessairement la loi de la jungle.
Non, justement. D'ailleurs, cette loi de la jungle-là, si on la lit un peu à un certain darwinisme, Nietzsche l'aurait rejetée parce qu'il montre que l'histoire, justement, ne suit pas une logique d'adaptation même. Donc, peut-être la première indication qu'on peut donner, c'est des indications négatives. Nietzsche dit que la volonté de puissance, c'est une volonté de vie. Ça a l'air bête, mais c'est une volonté de la vie, c'est une volonté de vie. Ça peut avoir l'air banal, mais ce qu'il va montrer, souvent, en critiquant le christianisme et d'autres, c'est que la volonté de mort existe aussi.
Un peu Eros et Thanatos, finalement.
Oui. Freud va parler d'une pulsion de mort aussi. On peut avoir une volonté de mort. C'est toujours de la volonté. Donc, cette volonté mortifère, elle est à la source de beaucoup d'institutions culturelles, dont le christianisme. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Donc, c'est une volonté de vie. C'est pas une volonté de destruction en soi. C'est pas... Et il dit aussi, donc, autre chose de négatif, la volonté de puissance, c'est le contraire d'un concept qui était dominant à cette époque, qui est le conatus, qu'on trouve chez Spinoza. Ça veut dire l'instinct de conservation de soi. Mm. À partir de Spinoza, ça se retrouve chez Hobbes aussi. C'est une idée courante que ce qui caractérise l'instinct fondamental du vivant, c'est l'instinct de conservation de soi. On veut se conserver dans son être. Donc Nietzsche disait non, non, pas nécessairement. Mm. On peut vouloir se suicider de bien des manières, bien, malgré tout, mais aussi, et c'est là qu'on entre dans une détermination plus positive de la volonté de puissance, c'est que la volonté, c'est pas une volonté de conservation, mais une volonté de croissance. La volonté de puissance, c'est une volonté de croissance. Est-ce que c'est un concept biologique? Est-ce que c'est un concept qui est uniquement, comment dirais-je, spirituel ou tout ça? Nietzsche joue sur tous les plans à la fois. Mais on peut l'exemplifier quand même assez, ou trouver de l'illustrer assez facilement. C'est Hölderlin qui disait... qu'un enfant, son plus cher désir, c'est de devenir grand. Je pense qu'on l'a tous vécu, ça. Donc, la volonté de croissance hein, qui habite, si vous voulez, le vivant. Donc, c'est une volonté qui, que Nietzsche va spécifier encore davantage comme une volonté de dépassement. Donc, sur le plan spirituel, entre autres, une croissance spirituelle, donc se dépasser... il croyait hein, que l'être humain peut être porté par un tel désir de dépassement. On ne peut pas se contenter de ce qu'il appellerait un bien-être facile, quoique c'est des questions qu'on peut poser. Donc, volonté de croissance, qui est naturellement, quand on dit croissance, on dit quelque chose qui est affirmatif, hein, qui prend de la puissance, etc. Donc, naturellement, ben, ce déploiement, si on peut dire, de croissance, il réprime autre chose. Mm. C'est là où le tragique joue pour Nietzsche, puis il va insister énormément sur le côté négatif, souvent pour choquer ou pour toutes sortes de raisons, mais c'est que si on prend cette volonté de puissance comme une sorte d'affirmation de puissance, mais elle comporte aussi nécessairement une part de négation, comme deux forces, si vous voulez, qui s'affrontent. Il y en a une qui va réprimer l'autre. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, c'est là où il va greffer, si vous voulez, la dimension tragique, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans la vie d'affirmation sans négation. Ou de croissance sans quelque chose qui décroît. Donc, le seul moyen de surmonter cette dynamique-là, c'est de créer, on peut dire, de transformer, de transmuer, si je peux dire, quelque chose qui est en déclin, en force. Donc, ça, c'est, je pense que c'est... peut-être ce qui est le plus proche de la volonté de puissance. Et bien sûr, ben, on a tous une volonté de puissance de ce point de vue-là. On veut croître, on veut exercer un effet sur notre environnement, on veut... Mais il y a aussi l'idée que cette volonté, elle est inconsciente. Mm-hmm. On ne décide pas d'avoir une volonté de puissance ou pas. Elle est fonction de beaucoup de facteurs. Il y en a qui ont des meilleures santé que d'autres, etc. Mais le sommet de la volonté de puissance, c'est de vouloir cette puissance, c'est de vouloir cette affirmation malgré tout. Et à ce moment-là, autrement dit, au lieu de croître, de développer ses talents ou tout ce que vous voulez, c'est de le vouloir en plus. Et là, Nietzsche dit c'est la volonté de puissance la plus haute. Dans un des fragments de la volonté de puissance, il la décrit comme le fait d'imprimer sur le devenir, donc la croissance, le caractère de l'être. Mmh. Autrement dit, en faire quelque chose de cette puissance.
Et on n'est pas loin ici d'un autre concept qui lui est cher, celui du surhomme, justement.
Voilà. Ouais. On peut comprendre l'un par l'autre. Donc, c'est sûr qu'il va souvent prendre le modèle de l'artiste, hein, parce que justement, de faire c'est de cette pulsion quelque chose, une œuvre, ben, ça rappelle le modèle de l'artiste en premier lieu. Hein. On est des... Donc, l'artiste qui, justement, va créer quelque chose. Ce qui caractérise le surhomme, bon, c'est encore une fois, c'est un concept fatidique, si
vous voulez. Oui, qui a été aussi repris. Oui.
Donc, on peut le prendre comme le Superman, l'homme qui est le plus dur, le plus fort, qui va assouvir, qui va servir toutes ses faiblesses, etc. Alors qu'on sait que... Bon, mais je vais, si vous voulez, au plus vite, le surhomme, ce serait celui qui est capable d'accepter cette volonté de puissance et de se surpasser lui-même. Hein, c'est ce qui le caractérise le plus. Dans le Zarathoustra, il va, donc c'est là où il parle le plus du surhomme. C'est sûr que c'est des hommes, en règle générale, le surhomme est représenté par des individus qui sont supérieurs, hein, des gens qui ont... on peut dire, de la puissance, qui vont créer surtout des valeurs, hein, qui vont créer, je ne sais pas moi, une œuvre d'art qui va faire époque, par exemple, ou qui, une musique qui va, quelque chose de nouveau, hein, qui va orienter l'humanité dans une direction, une connaissance nouvelle. Donc, il y a des individus qui sont plus intelligents que d'autres, ou pour toutes sortes de raisons, qui sont... plus créateur. Donc, cette idée de dépassement, de création, c'est ce qui caractérise peut-être le plus le surhomme. Mais je reviens à ce que j'avais commencé à dire. J'espère que je ne fais pas trop de galade. Mais dans le Zarathoustra, il définit le surhomme comme le sens de la terre. Vous savez que le mot « homme » vient d'une racine latine qui est « humus ». L'homme vient de la terre. Donc, je pense que Nietzsche, par là, dirait ben, le surhomme doit être le sens de la terre. Donc, avec ce matériau, il doit vraiment faire quelque chose. Il doit donner du sens à cette vie, mais surtout une vie qui est terrestre, hein, qui n'essaye pas de se penser par rapport à quelque chose qui est en dehors, hein, ce qu'il appelait un arrière-monde. Donc, le surhomme, c'est en même temps celui... C'est l'homme post-métaphysique ou, si vous voulez, post-moral que nous sommes peut-être en train de devenir. Est-ce que ça répond assez à votre question?
Ben oui, je pense bien. Et il y a aussi le concept d'éternel retour, hein, qui revient, c'est le cas de le dire,
là,
beaucoup chez lui.
Vous me posez des questions qui sont très difficiles. Le concept d'éternel retour, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
OK, donc c'est assez complexe.
Oui, mais en même temps, on peut le juger de manière... Ben, on peut le comprendre d'une manière assez facile. Nietzsche disait dans certains fragments que c'est la pensée de la sélection par excellence. Cette pensée-là pourrait être dite, être formulée comme suit. Quelle serait ta réponse si on te disait que ce que tu as vécu, tu vas le revivre une infinité de fois? Et ceux qui répondraient oui seraient des qualifiables, si vous voulez, comme des surhommes. Ceux qui répondraient non, non. Donc, vous voyez, on aurait une pensée de la sélection. Puis, y en a qui ont insisté sur l'aspect cruel de cette pensée. Quelqu'un qui est en train de se faire torturer, est-ce qu'il voudrait revivre la même chose plusieurs fois? Donc, c'est certainement pas juste ça que Nietzsche avait en tête, bien que cette espèce d'affirmation de oui à la vie, pour lui, c'est fondamental. Hein, on peut dire non à la vie aussi. On peut dire non à soi, beaucoup de façons de le faire. La névrose en est une, etc., etc. Mais voilà, l'éternel retour. Dans un des textes, il va dire que si on a vraiment vécu une minute où on a été vraiment heureux sur la terre, on peut vouloir la revivre encore une fois. Je pense que ce qui veut dire... Ben, on pense, par exemple, au refrain d'une chanson. Hein, c'est pas grave, soit mis la baquette dans le fond de la boîte à bois, on a le goût que ça revienne. Hein? D'acapo comme ça. Mais je pense que ce qui veut dire aussi, c'est que... une vie, malgré tout, a une certaine continuité. Hein, si on devient, c'est justement... auprès de soi-même, si on fait quelque chose de sa vie. Cette vie-là, malgré ses errances, malgré ses moments de faiblesse, parce qu'il y en a aussi, Nietzsche se traite de décadent parfois, ça fait partie de la vie aussi, cette vie-là, elle va avoir une certaine continuité. Elle va avoir une certaine, on pourrait dire, comme un caractère destinel qui fait qu'il y a quelque chose qui se répète. Et il y a quelque chose qu'on peut profondément approuver là-dedans. Parce que c'est quelque chose qui relève de soi. Mais ça encore, c'est une interprétation que je donnerais. J'ai l'impression aussi, il y a une époque, j'avais soumis cette interprétation dans un texte, c'est que l'éternel retour, c'est un exercice spirituel, donc c'est pas une pensée cosmologique, c'est pas une pensée du temps cyclique qui va se répéter comme on en trouve dans le mythe. Ça, les commentateurs sont à peu près unanimes là-dessus. Je l'avais interprété un peu dans le sens des exercices grecs, un exercice de la mort. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me projette dans ma mort. Tout de suite, je ne serai pas là demain. Donc, on a beaucoup de mal à faire ça, les êtres humains. On pense toujours qu'on va être... on va vivre toujours, mais ce n'est pas le cas. Donc, on oublie cette chose. Donc, je me projette dans ma mort. Et je me dis, ben, comment je réagis? Est-ce que je veux... Est-ce que j'ai l'impression que j'ai vraiment été... Est-ce que, autrement dit, j'ai vraiment vécu ma vie? Et à ce moment-là, je peux dire oui.
Ou non.
Je sais pas. Donc, la pensée de l'éternel retour est quand même assez... mais elle a quelque chose dû, encore une fois, ce qu'on aime vraiment, ce qu'on trouve beau, on voudrait que ce soit toujours. Hein? Vous savez, la chanson de Richard Desjardins, « Quand j'aime une fois, j'aime pas toujours. » Mais je pense que la pensée de l'éternel retour exprime une sorte de d'effusion amoureuse comme celle-là. Nietzsche cite une fois un mot de Goethe qu'il admirait énormément. « Tu es si beau, je t'aime. Ne t'en va pas. » C'est en parlant d'un moment. Mm-hmm. Quand on est heureux, on voudrait que ça dure toujours.
Ben oui.
Non?
Ben oui, tout à fait. Ben, notre émission tire déjà à sa fin. Mais je pense qu'en terminant, je vous demanderais comment, de quelle manière la pensée de Nietzsche peut être toujours actuelle?
Mais je pense qu'on dit que maintenant, j'ai entendu dire que Nietzsche, c'était le philosophe le plus lu. Ah, c'est peut-être une sorte de fatalité parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais il est beaucoup plus difficile à lire qu'on pourrait le penser, mais il nous interpelle. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Pourquoi il est si important? C'est juste parce que c'est un philosophe qui remet en question la valeur de nos valeurs. Ça peut être émancipateur. Surtout si, justement, on est dans un monde qui ne repose... Bon, qui est post-religieux, quoi que ça, c'est encore une grande question. Un monde qui doit se refaire, si vous voulez. Et je pense que Nietzsche a recours à l'expérience. Un recours à l'expérience, une expérience qui est proche du corps, etc. Donc, en philosophie, c'est des courants qui sont de plus en plus forts, puisqu'on se rend compte, par exemple, que la morale ne peut pas faire abstraction de l'affectivité. On a souvent pensé à des devoirs, etc. Donc, on revient vers un être humain, si je peux dire, qui se prend moins pour Dieu ou se prend moins pour le contraire de Dieu.
Bien, je vous remercie beaucoup. Ça fut passionnant. En tout cas, on invite les auditeurs à comment dire, peut-être lire Nietzsche ou au moins,
acheter un ouvrage qui peut apparaître prochainement à tout le monde.
C'est ça.
merci.
Pour quelqu'un qui voudrait s'initier à Nietzsche, par où on commence?
Et ça, c'est une question difficile. Quand j'étais jeune, j'avais lu La naissance de la tragédie, mais pour ça, il faut avoir une fibre, je pense, artistique. Mais je pense que l'ouvrage le plus réussi de Nietzsche, franchement, j'ai du mal à trancher. Mais pour ceux qui connaissent un peu, je pense que le sommet de sa pensée, c'est Le gai savoir. C'est là où on retrouve le plus de ses idées, là où il n'est pas hargneux du tout. Il fait ses critiques, mais avec une distance, une grande lumière. Pour moi, c'est un beau livre. Puis ceux qui ont l'âme poétique, naturellement, Zarathoustra, c'est quand même un très grand livre.
Bien, l'invitation est lancée. On va se laisser en musique encore avec La Banera de Carmen. On va savoir que Nietzsche est un grand amoureux de cet opéra. Alors, on vous la laisse avec Maria Callas et on vous souhaite une bonne soirée. Yes.
Sillonnent les archipels du divertissement accompagnés de leurs fidèles matelots. Pour tout savoir sur le meilleur du cinéma, des séries télé, du gaming et plus encore, écoute les Marins d'eau douce dans une ambiance décontractée et sans prétention. Un rendez-vous des plus divertissants, tous les vendredis 13h sur les ondes de Cheese 94.3.